16h41 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Je vous rappelle avec un énorme plaisir l'annonce qu'on avait à vous faire ce matin sur le coup de 10h. À compter de mardi, Boulevard 101 renforce son positionnement comme radio parlée à Québec en accueillant l'extraordinaire Catherine Bachand dans sa programmation tous les jours dès 10h dans le Point de Max. Fait que c'est la dernière aujourd'hui, les amis, entre vous et moi. Après ça, je serai très bien accompagné de l'animatrice journaliste d'expérience Catherine Bachand. Pas compliqué, là. Puis c'est pas pour la vieillir. Elle est merveilleuse. Elle est encore tout jeune, Catherine Bachand, mais elle a plus d'expérience en radio à Québec que j'ai d'expérience dans la vie tout court. Fait que très, très, très content qu'elle se joigne à moi dans le Point de Max tous les jours dès 10h. Il y en a un qui est souvent avec nous aussi dans le Point de Max de ce temps-là. D'habitude, on fait ça une fois par semaine. Mais des fois, quand l'actualité le commande, on décide de se reparler. Et là, surtout avant une fin de semaine de 4 jours comme ça, ben pourquoi pas. Georges Mercier, analyste politique, particulièrement du côté de l'international, qui est là. Salut, Georges.
Hey Max.
On a planifié hier de revenir ensemble aujourd'hui sur le discours à la nation de Donald Trump, en se doutant bien qu'il allait pas mal juste répéter les mêmes lignes qu'il répète depuis des semaines. On s'est dit, regarde, on va se jaser quand même, puis selon ce qu'il dit, on pourra analyser ça d'une façon ou d'une autre. Finalement, on s'est pas trop trompé. Là, c'est pas compliqué, en fait. Les grandes lignes qui sont sorties de ce discours-là, on peut les retrouver sur le réseau Truth Social de Donald Trump quand on regarde ses tweets, ses truths, devrais-je dire, des dernières semaines.
Mais écoute, encore, c'est encore plus drôle. À un moment du discours, il citait une publication qu'il a faite sur Truth Social lorsqu'il parlait des alliés qui dépendaient du pétrole du Détroit d'Ormuz, puis il leur disait « Écoutez la gang, c'est un peu votre problème, man up en bon français, puis allez-y aussi. » C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit hier soir, puis la personne m'a dit « Donc au bout de la ligne, il se passe quoi ?» Parce qu'effectivement, Max, on n'a pas eu de grandes annonces, on n'a pas eu de grandes déclarations. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être surtout ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il y a plusieurs analystes qui pensaient qu'il allait faire son taco. On dit « Trump always chickens out », qu'il allait peut-être en profiter pour déclarer victoire, pour dire « Écoutez, on a atteint nos objectifs militaires, les Iraniens ne se sont pas soulevés, c'est leur problème, nous on a fait notre job, on retire nos billes ». Ça, il ne l'a pas fait. Mais non seulement il n'a pas fait ça, il a aussi dit, bon, c'est pas clair quand est-ce que ça va finir. Il a dit un autre 2-3 semaines. Il a reconnu que le prix à la pompe pour les Américains allait augmenter. Il augmente aussi chez nous. Il a reconnu que les marchés allaient être en baisse. Donc, ce qu'il a dit essentiellement, c'est, écoutez, je sais qu'il y a des coûts à cette opération-là, mais je suis prêt à les endurer, ces coûts-là. Et moi, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est lorsqu'il rappelle, vers la fin de son discours, la durée des autres conflits majeurs dans lesquels ont été embarqués les Américains. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, le Vietnam, l'Irak. Et il dit, et là, il fait une pause, il dit, écoutez, ça fait 32 jours. Du genre de dire, calmez-vous. C'est vrai que c'était un peu plus long que prévu, mais néanmoins, c'est pas encore la fin du monde. Et je pense que ce qui transparaît de ce discours-là, c'est sa détermination à continuer. Donald Trump arrive vers la moitié de son second mandat. Il est intéressé par sa place dans l'histoire américaine. Il y a une phrase qu'il répète souvent par rapport à l'Iran, c'est « Les autres présidents américains n'ont pas eu le courage, n'ont pas eu la détermination de faire ce que je fais. Écoutez, j'ai commencé, il faut que je finisse, non seulement pour ma personne, mais aussi, et ça c'est un autre moment assez émotionnel, aussi pour les soldats qui sont morts en Iran. Donc manifestement, on n'abandonne pas pour l'instant, on continue jusqu'où, jusqu'à quand, ça demeure les grandes incertitudes.
Mais Donald Trump parle un peu des deux côtés de la bouche en même temps, parce qu'en effet, ce qu'on ressent, c'est qu'il est pas, il sait peut-être que c'est pas proche de se finir, mais de l'autre bord, il continue de répéter « Hey, 2-3 semaines, c'est fini ». À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut croire? Puis mon questionnement là-dedans aussi, c'est que à un moment donné, on le voit tout ce qu'il fait, me semble. On le comprend tout, qu'il fait juste répéter ça pour essayer que le prix de l'essence monte pas trop, puis essayer de pas trop inquiéter. Puis... Mais qui le croit encore, Donald Trump? Y a-t-il encore autant ce pouvoir-là de dire n'importe quoi, puis à peu près n'importe qui va le croire, puis ça va avoir un vrai impact sur les marchés?
Ben, c'est intéressant ce que tu mentionnes, Max, parce que les marchés ne le croient de moins en moins. Avant, on avait des immenses variations en fonction de ces déclarations. Maintenant, on a plutôt une baisse des cours des marchés et une hausse du prix de l'énergie assez constante. Donc, manifestement, on ne le prend plus nécessairement au pied de la lettre. Le seul problème, c'est qu'au final, Donald Trump, il a beau avoir une personnalité qu'on déplore, il a beau mentir comme un arracheur de dents, au final, ça demeure le président des États-Unis. Donc, dès qu'il parle, on n'a pas trop le choix de l'écouter. Autre élément problématique, on est dans une guerre, hein? Donc, peut-être qu'il joue une genre de guerre psychologique contre l'Iran en ce moment. Ils essaient de faire en sorte qu'il guesse tout le temps, finalement, qu'il ne sait jamais où il va aller. Donc, ces déclarations sont contradictoires. Ça s'explique peut-être par l'effort de guerre, mais on n'a pas le choix de l'écouter aujourd'hui.
Concrètement, le message aux alliés des États-Unis de Donald Trump, c'est quoi? T'sais, qu'est-ce qu'il faut comprendre de son fameux « Hey, venez acheter aux États-Unis ». Puis allez-y dans le détroit d'Hormuz, puis c'est quoi son message? Qu'est-ce qu'il veut que les autres pays fassent?
Je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol chez Donald Trump par rapport au comportement des alliés par rapport aux États-Unis. Je pense que Trump, depuis très longtemps, est persuadé que c'est une autoroute à sens unique, la défense des Américains. Les Américains dépensent beaucoup pour leurs forces armées, ils prennent sur leurs épaules la défense des pays européens, de leurs autres alliés, et ces autres alliés-là ne les aident pas lorsqu'ils demandent de l'aide. Et ça, c'est une constante dans sa pensée, où il n'y a pas de réciprocité. Parce qu'un terme fort chez Donald Trump, c'était de réciprocité, où il veut vraiment qu'il y ait un retour de l'ascenseur. Jusqu'à maintenant, en Iran, il n'y a pas eu de retour de l'ascenseur. En fait, c'est même pire que ça. L'Italie et l'Espagne empêchent les avions américains militaires de se poser sur leur territoire pour aller frapper là-bas. Et ce qui est paradoxal, c'est que bon, quand Donald Trump dit que les États-Unis produisent beaucoup, beaucoup de pétrole et qu'ils sont autosuffisants, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'essentiellement, ils n'ont pas les bonnes raffineries pour traiter leur propre pétrole. Donc, ils ont besoin d'importation aussi. Le pétrole est un marché mondial. Donc, forcément, si on limite la production à quelque part, ça va se répercuter sur les prix aux États-Unis. Dans les faits, toutefois, s'il y avait un vrai problème, les Américains seraient en bien, bien, bien meilleure posture, s'il y avait une fin des flots énergétiques, que les Européens ou leurs alliés de l'Asie. Et c'est pour ça qu'il dit, écoutez, c'est vous qui risquez de perdre le plus avec cette histoire-là. Vous avez des navires, vous avez des armées, on vous a fréquemment entraîné, nous les Américains, vous pourriez contribuer à l'effort de guerre. Puis il y a une vraie frustration de sa part à ce niveau-là. Moi, honnêtement, Max, je ne sais pas s'il y a 100% tort là-dessus. Parce qu'évidemment, si on se met dans la position des Européens, vous nous avez appliqué des droits de douane, vous n'êtes pas certain que vous voulez nous aider avec l'Ukraine, vous avez menacé d'annexer le Groenland. Bon, on comprend pourquoi la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne n'ont pas envie de l'aider, Donald Trump. De l'autre côté, l'Iran, ça demeure un régime, le régime théocratique en Iran, farouchement anti-occidental, qui déstabilise la région, qui a du sang européen sur les mains d'une manière ou d'une autre, vers ses milices ou des actes terroristes. Et surtout, l'Iran qui a choisi de prendre en otage l'énergie mondiale en ce moment, pour sa propre survie. Il y a un moment où les Européens ne pourront pas simplement s'en laver les mains et dire « c'est votre guerre, les Américains, on ne vous aide pas ». Ou s'ils veulent eux-mêmes, pour leur propre survie, leur propre sécurité, protéger leurs intérêts, ils vont peut-être devoir y aller.
D'ailleurs, il y a, je pense, c'est 35 pays là, aujourd'hui qui se rencontrent virtuellement pour regarder comment on va faire après le conflit pour revenir un peu à la normale, mais c'est important les termes que j'ai mentionnés là. La rencontre, c'est pour regarder comment on fait après le conflit. On dirait qu'il n'y a personne qui veut jaser de « OK, faudrait-tu agir là? » là? Tout le monde veut juste attendre que ça se finisse puis on laisse les États-Unis gérer leurs affaires.
C'est comme le président Macron en France qui dit « on va aider lorsque le conflit va avoir pris fin, justement. » C'est pas l'aide dont on a besoin en ce moment. La question qui se pose, puis je la lance, c'est que c'est fou à quel point le monde a été irresponsable d'une certaine manière. On avait 20% du pétrole mondial, une grosse partie du gaz, de l'engrais, qui passait par ce petit détroit-là, d'un côté duquel on avait un régime théocratique, islamiste, pas très sympathique à nos intérêts, puis on s'est dit « regardez, ça va bien aller ». On n'a pas à trouver une solution plus pérenne. À la fin de cette guerre-là, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va diversifier les chemins d'approvisionnement, parce qu'on peut pas avoir l'énergie mondiale qui est dépendante d'un si petit endroit. On pourrait même penser, c'est pas ce que Trump ferait, mais dans un monde rationnel, à une coalition internationale qui gérerait ce détroit de Hormuz-là. Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on peut pas prendre ce risque-là. Le risque est trop gros. Il va falloir penser à beaucoup plus long terme sur comment on empêche une telle situation de se reproduire.
Il nous reste un genre de 5-6 minutes, Georges Mercier, analyste politique. Puis il y a trois dossiers dont on voulait jaser ensemble, tous en lien avec les États-Unis. Puis Le premier, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup fait jaser au Québec, mais il y a un juge fédéral qui a ordonné la suspension de la construction de la fameuse salle de bal de Donald Trump qu'il veut faire construire, lui, du côté de la Maison-Blanche. À quel point c'est important? À quel point c'est une petite claque d'en face de Trump?
Moi, je trouve que c'est très symbolique. Moi, c'est juste un bâtiment, c'est juste un gros projet de construction, mais ça illustre bien la nature des contre-pouvoirs. On dit toujours aux États-Unis, il y a des checks and balances, le Congrès, le judiciaire, l'exécutif. Puis éventuellement, il ne faut pas trop s'inquiéter par les actions de Donald Trump parce qu'il va y avoir un retour du balancier, il va y avoir un contre-coup. On va lui dire, ce que tu fais est illégal, retourne à la légalité. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que oui, éventuellement, il y a un retour du balancier. C'est illégal ce que tu fais, mais il y a des conséquences du fait qu'ils prennent l'initiative. Puis en ce moment, si vous allez à Washington, si vous regardez la Maison-Blanche de haut, vous voyez un gros trou. Un gros chantier de construction à côté. Bon, la construction n'est pas encore tout à fait arrêtée, mais néanmoins, il pourrait y avoir un gros trou, ce qui symbolise bien que, oui, il y a des contre-pouvoirs, mais l'exécutif décide quelque chose, il crée une action, il entraîne des conséquences, il met des droits de douane, il lance une guerre, il détruit l'LS, puis on est pris avec les pots cassés. Et là, c'est le message que Trump va envoyer, c'est, écoutez, indétruite l'LS, vous êtes mieux de me laisser la reconstruire, parce que vous ne pouvez pas laisser un trou béant à côté de la Maison-Blanche. Donc, il nous met devant le fait accompli, puis on est pris à jouer catch-up, en bon français, tout le temps.
La question du droit de sol, qui est aussi revenue dans l'actualité américaine cette semaine, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ça, le droit de sol, puis pourquoi ça fait controverse? Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler là, dans les dernières années, mais là, cette semaine, c'est vraiment revenu dans l'actualité.
Oui, essentiellement, le 14e amendement de la Constitution américaine décrète que tout individu qui naît sur le territoire américain, à quelques très rares exceptions, devient automatiquement un citoyen américain. Lorsque Trump retrouve la Maison-Blanche en janvier de l'année dernière, il signe un décret exécutif pour dire « ça ne s'applique pas aux enfants d'immigrants illégaux ». Il y a des contestations parce que le texte constitutionnel, il est très clair. Pour plusieurs observateurs, c'est quand même cette loi-là symbolisait la promesse des États-Unis. Tu sais, les États-Unis comme terre d'opportunité, t'arrives, tu nais là-bas, tu deviens américain, et c'est à ça que s'oppose finalement la Maison-Blanche. Pour ceux qui craignent l'abrogation de ce qu'on appelle le droit de sol, les juges avaient l'air très sceptiques quand ils ont entendu les arguments, parce que là, le texte constitutionnel, il est clair. Puis on a beau dire que la Cour suprême, elle est idéologique, elle est conservatrice, etc., etc., au final, elle est quand même liée par le texte, et lorsque le texte est aussi clair, c'est surprenant qu'il réussisse à ce niveau-là.
Et finalement, plusieurs ont suivi hier le décollage d'Artemis 2, qui est une première étape vers un retour sur la Lune éventuellement. Est-ce qu'on pourrait voir un semblant de coopération internationale pour ce défi-là de retourner sur la Lune, ou ça va encore être une compétition un peu chacun pour soi?
Non, là, au contraire, c'est peut-être la bonne nouvelle de la semaine, où il y a encore quelque chose comme la coopération internationale, parce que le programme Apollo, des années 60-70, c'est John F. Kennedy qui dit « We choose to go to the moon », c'était essentiellement une compétition entre les États-Unis et l'URSS pour dire qui c'est qui va arriver le premier sur la Lune. Puis une fois qu'on était rendu là, c'était fini. On l'a atteint, on a gagné, on passe à autre chose. Le programme Artemis, c'est très différent. C'est une coalition internationale de plusieurs pays. Le Canada en fait partie, l'Union européenne en fait partie, le Japon, les Émirats arabes unis, où on décide d'avoir un vrai programme spatial avec des normes communes qui nous permettraient éventuellement d'avoir un camp sur la Lune et peut-être d'explorer Mars. Mais ça montre que malgré, si on parle toujours de conflits aujourd'hui, de destruction des alliances, ben, il y a certains programmes qui tiennent. Et qui vont peut-être tenir encore, parce qu'on a quand même des intérêts qui nous rapprochent, pas juste des intérêts qui nous divisent.
Mais en contrepartie, t'as nommé différents pays. La Chine, là, ça pourrait être une course. La Chine pourrait décider de dire... puis en fait, ça a l'air d'être une intention pour soit aller, justement, entre guillemets, habiter la Lune. T'as parlé de Mars aussi. Il y en a quand même des pays, encore entre guillemets, rivaux des États-Unis... qui risque de vouloir se payer une petite course.
Ah, mais dans les faits, c'est une course parce que la Chine a un programme qui vise à aller explorer la Lune. Avec qui? Je te donne en mille, avec la Russie. Donc oui, il y a une course à ce niveau-là. Mais au moins, ce n'est pas une course qui oppose les États-Unis seuls à la Chine et à la Russie. Ici, c'est quand même les États-Unis avec des pays plus libéraux, plus occidentaux, qui s'opposent à ces deux-là. Puis ça peut être un signe de fierté, puis un bon exemple qu'on est encore capable d'agir ensemble malgré le président actuel et son comportement.
Bouclons la boucle, Georges Mercier, avec... Puis c'est drôle, la dernière fois qu'on s'était parlé, je t'avais demandé, là, d'ici à ce qu'on se reparle, probablement, là, c'était supposé être mardi prochain, là, au retour de Pâques. Qu'est-ce qui va s'être passé? Est-ce qu'il y a des troupes qui vont avoir été envoyées du côté de l'Iran par les États-Unis? Ta prédiction en date d'aujourd'hui, maintenant, avec les, entre guillemets, nouvelles informations, qui sont peut-être pas toujours si nouvelles que ça, est-ce que dans les prochains un jour, on va avoir des troupes au sol en Iran?
Moi, je pense que les troupes militaires, c'est un peu comme le pistolet dans une pièce de Tchekhov. Tu sais, dans une pièce de théâtre, si tu montres un pistolet, il faut qu'il ait tiré avant la fin de la pièce. Si tu envoies 10 000 soldats américains au Moyen-Orient, c'est pour s'en servir. Il est déterminé, moi je pense encore, qu'on va avoir une forme de débarquement. On verra quelle forme exacte il va prendre.
L'ami Georges Mercier, analyste politique, un gros merci pour ton temps. Je te souhaite un très beau week-end de Pâques. Puis, si tu le veux bien, on pourra se reparler mardi. D'après moi, en 4 jours, on devrait avoir du stock dans l'actualité internationale pour une petite jasette mardi.
Avec un grand plaisir, Joyeux Pâques.
Salut, salut Georges. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio par texto. Dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot s'en vient pour l'open mic en compagnie de Mademoiselle CV, parce que c'est pas vendredi, mais c'est tout comme avec le congé de demain. Fait que Mademoiselle CV qui s'est dit, hey, c'est-tu quoi? On va y aller le jeudi. Le point de mic.